Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans les Chroniques de la Vieille Europe. Autour de moi pour animer notre émission, comme d'habitude, Lucien Valdès. Bonsoir Lucien.
Bonsoir.
Et Philippe Christel. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Patrick.
Alors avant de vous présenter notre émission d'aujourd'hui, je voudrais revenir une petite minute sur l'émission du mois dernier, car nous avons eu quelques échos de certains auditeurs sur la venue de Roland Dumas. Certains ont été scandalisés que l'on invite l'ancien ministre socialiste, pour d'autres ils nous ont trouvé beaucoup trop gentils avec le ministre dans nos questions. Alors premièrement, le but de cette émission était de décrypter l'événement qui avait été la chute du mur de Berlin il y a maintenant 20 ans, et comment la France et le gouvernement avaient vécu ce bouleversement. Nous pensions que le meilleur témoin de l'événement était le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Si le ministre avait été de droite, on l'aurait invité, ou du centre, ou des extrêmes, nous l'aurions invité. Fallait-il pour autant le contrer sur sa vision de l'Europe? Nous aurions effectivement pu le faire, mais ce n'était pas le sujet de l'émission. Et je pense que ces réponses ont été assez claires pour s'apercevoir qu'il y avait une terrible inquiétude de la part du gouvernement de la France, opinion que nous ne partageons pas forcément. Philippe Christel avait très bien expliqué lors d'une précédente émission les inquiétudes injustifiées de la part de François Mitterrand. Roland Dumas n'a fait que honnêtement rappeler les faits de l'époque, et pour en terminer avec cette affaire, Radio Courtoisie, comme l'a toujours voulu son créateur Jean Ferré, est de laisser parler longuement nos invités, qu'ils puissent s'exprimer. C'est ce qui fait la particularité de Radio Courtoisie, chose devenue rare sur les radios généralistes. Pour le reste, j'avoue que les propos de Roland Dumas sur la Russie ou sur l'Iran, nous aurions tendance à les approuver. Voilà. Philippe Christel, un commentaire, non?
Non, simplement, je trouve que pour une émission comme la nôtre, recevoir Roland Dumas est aussi une preuve de sérieux et de crédibilité, et je me félicite de sa présence parmi nous.
Voilà, donc pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté l'émission, je les invite à l'écouter sur notre site vieilleeurope.fr et ils pourront se faire une opinion eux-mêmes. Pour ce soir, nous allons changer complètement de sujet, car nous allons aborder avec nos invités la pensée politique de Maurras vis-à-vis de l'Europe. Encore que l'inquiétude d'un François Mitterrand sur l'Allemagne pourrait se rapprocher d'un Maurras. Nous avons le plaisir d'avoir dans nos studios de Radio Courtoisie Georges-Henri Soutou de l'Institut et Martin Motte qui ont dirigé un livre remarquable et d'une incroyable actualité. Entre la vieille Europe et la seule France, Charles Maurras, la politique extérieure et la défense nationale aux éditions Economica. Bonsoir messieurs et merci pour votre présence. Vous étiez déjà passé dans l'excellente émission de François-Georges Dreyfus sur Radio Courtoisie en janvier, mais je pense que le sujet est inépuisable, surtout dans ces moments de doute vis-à-vis de l'Europe politique. Vous êtes tous les deux des universitaires spécialistes des problèmes de défense, de relations internationales et de diplomatie. Georges-Henri Soutou, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et un spécialiste, entre autres, des relations franco-allemandes. Votre dernier livre était « L'Europe de 1815 à nos jours » aux presses universitaires de France. Martin Motte, vous êtes professeur à Saint-Cyr-Couët-Quidan et au Centre d'enseignement supérieur de la Marine et conférencier à l'IEP de Paris. Votre dernier ouvrage a été consacré à Clausewitz en collaboration avec Laure Badier aux éditions Economica. Alors, à la lecture de votre livre, ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on découvre un autre Maurras, un Maurras peut-être plus influent et plus pertinent que le Maurras monarchiste de l'Action française.
Bah écoutez, je crois que c'est l'intérêt de ce que nous avons voulu faire, justement, c'est-à-dire sortir Maurras du cocon quasiment archéologique dans lequel il se trouvait dans l'esprit de nos contemporains, et essayer de montrer qu'il ne vivait pas sur une île déserte, mais qu'à sa manière, il participait pleinement au débat de son temps, même quand il n'est pas d'accord avec une des options suivies à l'époque par le gouvernement français, il en connaît parfaitement les tenants et les aboutissants, et il sait de quoi il parle, il est informé, il ne parle pas du point de vue de Sirius. C'est exactement ce que nous avons voulu faire.
Martin Motte, sur le sujet, parce que quand on voit les livres que vous avez écrits sur la géopolitique, comment on fait pour s'intéresser à ce Maurras-là?
Alors on s'y intéresse parce que dans Qu'il est Angers, qui est le livre qu'il a publié en 1910 sur la politique étrangère française, eh bien, il y a beaucoup de passages consacrés à la marine, qui était mon sujet de thèse, en fait, la marine de la Troisième République. Et outre que ces passages sont extrêmement riches et bien informés, Il y a toute cette réflexion qui culmine avec son dernier chapitre. Et le dernier chapitre, quand je l'ai lu, d'ailleurs sur la recommandation du professeur, eh bien, les bras m'en sont tombés parce qu'on avait en fait tout le programme de politique étrangère de Gaulle et puis de Pompidou aussi, d'une certaine manière, qui apparaissait dès 1910. Et Pompidou l'a d'ailleurs reconnu dans un discours en 1972.
Discours qui est à la fin de votre
tout
livre.
Tout à fait.
Alors, effectivement, ce qui est incroyable en lisant votre essai, qui en fait, c'est plusieurs auteurs, hein, vous avez dirigé le livre, c'est que on a l'impression que toute la politique française depuis De Gaulle et jusqu'à Mitterrand, je dirais, ont été influencées par Maurras.
Influencé par Maurras, ça c'est peut-être beaucoup dire. Encore que quelqu'un comme François Mitterrand avait certainement lu l'Action française, comme tout le monde à Paris dans ces milieux-là, pendant l'entre-deux-guerres, voire même un peu plus tard encore. Mais le fond de l'affaire, c'est que Maurras, à partir de qui l'étanger, met le doigt sur un certain nombre de lignes de force que je qualifierais, faute de mieux, de géopolitique, tout simplement, de la politique extérieure française, qui peut pas faire n'importe quoi dans le monde. Il y a une gamme d'options, mais n'est pas infinie. Et il a mis le doigt sur ces possibilités, avec leurs avantages ou inconvénients respectifs, et les dirigeants successifs, et je dirais effectivement jusqu'à François Mitterrand, voire même au-delà, parce que, bon, on va pas parler des présidents de la République encore en vie, mais enfin, on pourrait très bien montrer, plus qu'on ne le croit parfois, des lignes de continuité. Non pas maurrassienne, pas du tout, mais d'une certaine géopolitique française. Si vous voulez, je peux vous la résumer en un mot. Il y a plusieurs façons de voir le problème, mais il y a ce que j'appelle la géopolitique française traditionnelle, consiste, pour dire les choses en une phrase très brutalement, rééquilibrer l'Allemagne par une alliance de revers avec la Russie, quelle qu'elle soit, contrebalancer la Russie, qui est évidemment prépotente, grâce aux États-Unis et éventuellement grâce à un rapprochement avec l'Allemagne. Et dans ce jeu d'équilibriste, enfin de lancer de boules que l'on maintient en l'air, n'est-ce pas, de jongleur, voilà. Et il faut que la France essaie de conserver son jeu. Et c'est ce que dit Maurras à la fin de Qui l'étanger, et c'est ce que dit De Gaulle lorsqu'il explique à l'imperfite qui notait justement ses propos, on retrouve ça dans C'était de Gaulle, qui est un ouvrage fondamental, eh bien, l'Europe sera pour la France un levier d'Archimède pour jouer de nouveau un rôle important dans le monde. C'est toujours cette idée de poids et de contrepoids qu'un pays, disons, moyen, bon, depuis la guerre de 70, tout le monde le sait, depuis la défaite de 70, tout le monde le sait, c'est un jeu de poids et de contrepoids qui doit permettre à la France de jouer un rôle plus important que ne le permettrait normalement sa puissance propre. Voilà, c'est ce que j'appelle une géopolitique à la française. Alors, il y a d'autres aspects, bien entendu, mais celui-là, je crois que on le retrouve. Vous avez cité Roland Dumas. Je vous signale que le dernier livre, me semble-t-il, de M. Hubert Védrine, ou l'avant-dernier, sur la politique extérieure française, établit expressis verbis une continuité de Gaulle à Jacques Chirac. Et ils ne mettent côté que Valéry Giscard d'Estaing, ce qui est d'ailleurs, à mon avis, excessif maintenant qu'on voit les archives. Mais ils soulignent une politique continue, extérieure, continue de la Ve République, assez dans le sens que je viens vous expliquer.
Martin Motte, justement, sur les gaullistes sont plutôt opposés à cette rapprochement de la pensée maurrassienne avec le général. Donc leur principal argument, c'est de dire que De Gaulle n'était pas monarchiste. En fait, De Gaulle a inventé un système qui est très proche, en fait, de la monarchie que Charles Maurras voulait de ses voeux.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour De Gaulle, la stabilité des institutions, c'est la condition d'une politique étrangère qui tienne la route, parce qu'évidemment, si on est soumis aux aléas du débat parlementaire, comme c'était le cas sous la troisième et la quatrième, on ne peut pas agir. Et il y a vraiment un lien donc entre réforme institutionnelle et politique étrangère. Et de ce point de vue-là, il faut insister sur le fait que Qui l'étanger est une analyse de l'Europe de son temps, mais c'est un ouvrage de politique intérieure. Chez Maurras, les deux ne sont pas dissociés. Mmh. Et justement, ce qu'il cherche à démontrer avant tout, c'est que les différentes options qui se présentent à la diplomatie française ont leur intérêt intrinsèque, mais qu'il faut toujours considérer aussi la question de savoir si les institutions permettent ensuite la cohérence de l'action et la coordination entre diplomatie et défense. Et il montre en particulier que dans la crise de Fashoda ou dans la crise de Tanger et d'Agadir, après, eh bien, on a un Quai d'Orsay qui a choisi une option, et puis la marine qui est pas prête à l'assumer, dans le cas de la crise de Fashoda, ou l'armée de terre, dans le cas des crises marocaines. Donc je crois qu'effectivement, si De Gaulle est tellement attentif à ce lien, c'est peut-être grâce à l'héritage maurassien. Et c'est pour ça aussi que Raymond Aron, lorsqu'il parle de la Ve République dans les articles du Figaro, parle d'une institution qui réalise, dit-il, la revanche de Maurras.
Alors, si je voudrais intervenir sur ce point, je pense que le point vraiment de grande convergence entre Maurras et De Gaulle, plutôt De Gaulle et Maurras en ordre chronologique, c'est la priorité, non pas une fois de plus dans l'ordre de la dignité, mais dans celui de l'urgence, la priorité de l'organisation de l'État, en particulier en vue de la politique extérieure. Ce qui refermait une longue parenthèse ouverte avec au moins la chute du Second Empire. Bon, à partir de là, il y a évidemment des différences considérables. Il y en a une d'ordre intellectuel. Maurras est très classique dans sa réflexion. De Gaulle, d'une certaine façon, est beaucoup plus romantique. C'est-à-dire, et plus dialectique. Peut-être que le mot est plus juste pour ce que je dis maintenant. Plus dialectique. C'est-à-dire que si vous prenez un texte de De Gaulle, un discours ou un écrit de De Gaulle, vous avez toujours le point de vue principal, puis vous avez en même temps qui s'avance un point de vue un peu différent, et toujours la possibilité d'une synthèse entre les deux. Bon, si vous prenez, par exemple, le thème de l'Europe, Maurras, toujours considéré comme totalement irréaliste, impensable, irréalisable et nocif, une Europe fédérale. De Gaulle a toujours dit que « it et nunc », ça n'avait pas de sens. Mais peut-être dans 50 ans, on verra. Parce qu'il ne veut pas s'engager pour un avenir qui peut évoluer. Il a un sentiment des surprises que réserve l'histoire, de l'évolution historique, qui est nettement plus forte que celle de Maurras, qui est plus, disons, classique, rigoureusement classique dans sa réflexion. D'autre part, De Gaulle avait été, comme Bainville, beaucoup plus marqué par la pensée allemande du XIXe siècle que Maurras. Et là, on le voit très bien. Hein, quand on prend certaines citations, il est très clair que l'univers de la philosophie allemande et de l'historiographie allemande du XIXe siècle, la littérature allemande, ont davantage marqué De Gaulle, qui est quand même le seul chef d'État français qui a été un jour capable de citer Goethe en allemand lors d'une conférence de presse radiodiffusée, n'est-ce pas ? Der Geist der Staatsvernunft, l'esprit qui toujours nie, pour qualifier l'opposition de l'époque. Vous n'avez pas beaucoup d'hommes d'État français qui citent Goethe en allemand à la radio. Hein.
Alors, il y a quand même on le voit bien dans votre livre, il y a une faiblesse quand même chez Maurras, c'est que c'est un militant de l'Action française et qu'il a toujours besoin de se justifier vis-à-vis de son idée monarchiste, quitte à être quasiment de mauvaise foi quand il parle par exemple de la Troisième République qui a été voulu et quasiment dirigé par l'Allemagne. Est-ce que c'est pas là justement la faiblesse, sa géopolitique est pas limitée à ce niveau-là parce qu'il est aussi militant qu'il a besoin, comme le disait tout à l'heure Martin Mott, c'est aussi de la politique intérieure qu'il fait. Et donc il a peut-être pas ce recul. On sent quand même ses faiblesses sur l'Angleterre, non, son avis sur l'Angleterre.
On peut multiplier, bien entendu, la liste des exemples. Alors, en ce qui concerne la Troisième République voulue par l'Allemagne, je vais peut-être vous surprendre, mais l'historiographie de pointe, et je dirais américaine.
J'en suis pas un grand défenseur.
Non, mais l'historiographie de pointe est, en l'occurrence, américaine, essentiellement, donc, enfin, d'un point de vue plus neutre. Bon, elle partage tout à fait, avec évidemment plus de réserve et de nuance, l'idée que Bismarck a voulu que ce soit une république. Ça s'est attesté qu'il a, par des petits gestes habiles, favorisé cette évolution autant qu'il l'a pu. Et que finalement, ça a marché d'une certaine façon, n'est-ce pas ? C'est très, très net quand vous lisez l'histoire des relations franco-allemandes à partir de 1871. Il est tout à fait clair que discrètement, Bismarck encourage l'approfondissement de la République en France, n'est-ce pas ? Quitte à donner un petit coup de patte quand elle risque, comme au moment de l'affaire Schnebelé en 1885, si vous vous souvenez bien, bon, de devenir un peu trop militante, un peu trop revancharde. Là, il donne un coup de patte, mais sans ça, il est assez satisfait. Son deuxième instrument, et là aussi c'est un thème sur lequel nous comptons revenir un jour, il a encouragé la Troisième République à l'aventure coloniale, ce qui la braquait immédiatement contre l'Angleterre. C'est un coup de maître, n'est-ce pas ? Et qui n'était pas du tout évident au départ, puisque c'était la prolongation d'une politique du Second Empire, qui curieusement aurait dû être rejetée par la Troisième République. Quand vous regardez les responsables de la conquête coloniale, ce sont au départ des gens qui sont restés de l'administration du Second Empire, n'est-ce pas ? La Tunisie, c'est très net, c'est un projet du Second Empire qui a été exécuté par la Troisième République, mais ce sont les mêmes hommes qui sont en place comme diplomates, militaires, etc. Bon. Bismarck a été assez habile, ce qui fait que cette thèse maurassienne, qui d'ailleurs venait de Bainville très largement, c'est Bainville qui l'avait démontré par son livre sur
la correspondance
de Bavière, Bismarck.
Et puis la correspondance entre Bismarck et Enkel von Donnersmarck, qui était l'émissaire en fait de Bismarck auprès de Gambetta.
Voilà, exactement. Exactement. C'est toute la complexité du rôle de Gambetta qui, à mon avis, n'est pas encore totalement expliqué aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a chez Maurras beaucoup d'outrances, c'est évident. Bon, il y a des choses qui ne tiennent pas à la route. C'est un journaliste. C'est pas, il ne fait pas une thèse d'histoire en Sorbonne. Mais en même temps, avec le recul, comme je disais au début de l'émission, c'est jamais tiré comme ça de rien. Hein. Il parle vraiment des débats de son temps.
Alors, il y a tout un chapitre sur l'Angleterre, et pareil, là, il a un rôle, il y a des choses très intéressantes, mais à côté, il y a aussi de la propagande sur l'Angleterre. Et c'est toute l'ambiguïté de ces textes, parce que c'est vrai qu'il y a des choses vraiment d'actualité, et quand il parle des Anglais, on sent qu'il est quand même aussi dans les clichés, Martin Mott, sur ce sujet.
À vrai dire, moi, je suis pas du tout spécialiste de l'Angleterre. C'est Patrick Louvier de l'Université de Montpellier qui a fait l'article sur Maurras et l'Angleterre. Bon, Patrick Louvier a des conclusions très équilibrées. Il y a une partie outrancière et il y a une partie qui est plutôt confirmée là aussi par l'historiographie contemporaine. Je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on pense toujours à l'anglophobie. On a qualifié, on a dit que Maurras avait une anglophobie d'amiral. Bon. En réalité,
je crois que si je me trompe pas, c'est lui qui utilise le mot d'anglo-saxon.
À ma connaissance, c'est le premier à lancer. À ma connaissance, hein, enfin.
Mais ça occulte une immense admiration pour l'Angleterre. Ça, je crois que c'est.
C'est une monarchie.
Oui, et puis c'est une monarchie traditionnelle. Il n'y a pas eu les révolutions, finalement, surtout la deuxième, c'était un épiphénomène si on compare au nôtre. Enfin, il y a eu une très grande admiration. Il y a peut-être aussi le fait que l'Angleterre est restée de tradition très aristotélicienne par rapport au continent. Enfin, les études philosophiques n'ont pas pris le même tour. Or, Maurras est très marqué par Aristote. Enfin, il y a plein de choses. Mais moi, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est que le côté propagandiste, la déformation de ses analyses par son côté engagé, je la verrais plus sur sa lecture de l'histoire de France. C'est plutôt l'apologie qui fait de l'ancien régime qui me semble biaisée. Et en particulier, là, on y a guère insisté, mais j'ai eu l'occasion de travailler sur la vision qu'il donne de la marine. Et on se rend compte que la période de déclin de la marine française sous Louis XV, il fait de cet épisode-là une péripétie. Alors que ça vaut quand même la perte de l'empire, du premier empire colonial. Donc je crois que c'est surtout sur l'ancien régime qu'il n'est pas objectif. Sur son époque, en fait, il est vraiment à la pointe de ce qu'on peut savoir quand on est un journaliste qui s'informe bien.
Mais est-ce qu'il est vraiment monarchiste ? Parce qu'en fait, quand on lit, on a l'impression que, même quand vous dites qu'il est de mauvaise foi, quand on lui dit que la stabilité de la monarchie n'est pas... Et on lui donne des exemples, il envoie ça d'un revers de la main. J'ai pas l'impression. Il prend la monarchie parce qu'il a l'impression que c'est le seul moyen pour à peu près rester un grand pays en Europe. On peut pas dire que c'est un admirateur du système.
Bon, je dirais que c'est un monarchiste de rationnel ou de raison, ce qui n'a pas d'ailleurs tout à fait la même signification. Bon, il faut bien se souvenir, n'est-ce pas ? On est parti après 1870 dans l'espérance d'une restauration des Bourbons, puisqu'on a une Assemblée nationale qui est en majorité favorable à une restauration monarchique. Le problème, c'est qu'il y a deux prétendants possibles, les Bourbons. Et on réalise à un moment donné la fusion. Tout le monde se met d'accord sur le comte de Chambord. Alors ça, c'est le grand moment. On est en 1873, on a failli y arriver. On a même commandé les carrosses du couronnement, n'est-ce pas, qui sont encore, je crois, au château de Chambord. La dernière fois que j'y suis allé, on pouvait encore les voir. Bon. Et puis, patatras, on dit au comte de Chambord, bah, écoutez, il faudra quand même conserver le drapeau tricolore. C'est un symbole, bien entendu. Et le comte de Chambord, qui est honnête, bête, mais honnête, les deux vont souvent ensemble. Il dit non, drapeau blanc, et patatras. Alors, pour toute une génération, et Maurras n'est pas encore... il est tout petit encore à ce moment-là, il n'est pas encore réaliste, évidemment. Mais ça marquera toute une génération. Et je pense qu'il faut voir dans ce que vous dites, c'est-à-dire un monarchisme intellectuel de raison qui n'est pas le sentiment Montjoie-Saint-Denis de la France traditionnelle, tout simplement les réflexions d'une nouvelle génération qui se dit, ils nous font suer, pardonnez-moi l'expression, avec leurs histoires, n'est-ce pas, de la cour de Louis XVI et de l'enfant du temple, etc. Nous, on veut quelque chose de moderne, de rationnel. Les Orléans, au fond, représentent cette tradition, donc très bien. Je ne pense pas qu'il faille aller au-delà dans l'explication psychologique. Après ça, sur le plan intellectuel, l'enquête sur la monarchie donne, je crois, et puis tous les livres de Maurras par la suite, mais l'enquête sur la monarchie, c'est le point de départ, où à la fin, juste avant la guerre, ça s'appelle « Mes idées politiques », si je me souviens bien ce recueil, bon, qui était plus court, très clair. C'est une construction intellectuelle qui d'ailleurs, n'est pas unique à Maurras. Si vous prenez quelqu'un comme dont notre ami Grondeux a parlé dans le livre de Charles Beloit, qui est un cas extrêmement intéressant, parce qu'il parle de la République, et puis progressivement, il se rapproche de l'Action française. Vous avez une réflexion de Charles Beloit sur la réalité de la République, qu'il a un jour, en plein Sénat, rappelé de la façon suivante. N'importe qui, étant n'importe quand, capable de faire à n'importe quel poste n'importe quoi, peut à tout moment se retrouver ministre de la République, n'est-ce pas? Et ça, c'est sous une forme amusante. C'est très exactement la contrepartie de la réflexion de Maurras. Ce sont des idées qui sont largement partagées. Et que De Gaulle lui-même, si vous remplacez président de la Ve République, élu pour 7 ans, hein, pour 7 ans, mort et renouvelable, par roi de France, et reprenez les arguments de De Gaulle, vous avez quelque chose qui est très très proche, hein, très proche, sur bien des points, pas sur tous, mais sur bien des points.
Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière, c'est les influences de Maurras. Vous citez dans le livre, il y a bien sûr Mistral, que tout le monde connaît, mais Amoretti, peut-être un mot sur Frédéric Amoretti, qui est beaucoup moins connu du grand public. Quelle a été son influence sur la pensée
Alors, elle a été immense, parce que Maurras avait une très bonne formation philosophique et littéraire, mais il n'avait pas de formation historique et encore moins géographique. Alors Amoretti, c'est un homme qui est mort très jeune, c'est pour ça qu'il n'est pas connu, il n'a écrit que des articles, mais c'est quelqu'un qui, avec une boulimie d'histoire et surtout qui rapportait toujours l'histoire aux cartes et aux statistiques, c'est-à-dire il dévorait les recueils de statistiques, et donc il a donné à Maurras une vision de l'Europe en devenir, c'est une Europe très complexe, l'Europe de la fin du 19e, parce que outre l'affrontement des blocs que tout le monde connaît, il y a le bouillonnement aussi des minorités ethniques qui demandent l'autonomie en Irlande, les Roumains de Transylvanie, etc. Et alors Amoretti, qui était donc fédéraliste provençal, s'intéressait beaucoup à tout ça, et il a fait prendre conscience à Maurras de ses forces à l'œuvre en Europe, qu'elle est à terme bouleversée la carte de l'Europe, c'est-à-dire que donc il entrevoit des années 1890 les bouleversements qui vont advenir avec la Première Guerre mondiale, et la question qui se pose, c'est comment faire en sorte qu'ils aident la France à se sortir de son isolement, la diminution dans laquelle elle se trouve depuis la guerre de 70. Et puis là, c'est tout le thème qu'on va retrouver dans Qu'il est Angers, de la France prenant la tête des minorités, des petits peuples, etc. Bon, mais qui est en fait pas un thème absolument nouveau, parce qu'au fond, c'est une idée qui est déjà assez courante sous Louis XVI, hein, voire l'aide à l'indépendance américaine. Et puis en même temps, c'est la réflexion d'Amoretti, je dirais un peu comme philosophe de l'histoire, c'est aussi le souci que l'intérêt national ne soit pas incompatible avec le bien commun universel, parce que Le nationalisme intégral fait perdre de vue cette composante très importante dans la pensée de Maurras et des siens, c'est que ce ne sont pas des nihilistes. Ça n'a rien à voir avec les nazis, par exemple. Ce ne sont pas des gens pour qui la France est l'alpha et l'oméga. La France, pour eux, incarne très éminemment la civilisation, mais ce qui est premier, c'est bien la notion de civilisation, de progrès humain. Il n'y a aucune espèce de notion raciste, chez eux en particulier. L'antisémitisme de Maurras, c'est un sujet considérable, mais ce n'est pas un antisémitisme racial. Donc voilà, je crois que l'influence d'Amoretti, elle est là.
Mais comment ensuite, c'est à partir de là qu'il va rentrer ensuite vers l'Action française. Et pourtant, c'est vrai qu'il est plutôt agnostique. Il considère que la religion est importante et qu'elle va être un peu le socle de la France, la future France monarchiste. Ça aussi, c'est une ambiguïté qu'il a à ce niveau-là.
je trouve pas que ce soit si évident que ça. Si vous prenez l'enquête sur la monarchie, parmi les gens qui participent à l'enquête, il y a des gens qui rappellent que leurs familles ont été victimes de persécutions ou de pression de l'Église catholique au moment de l'ordre moral, et qui insistent bien sur le fait que la religion catholique a parti lié avec l'histoire de France, parce que ce pays a été fait par la dynastie capétienne qui tenait son pouvoir de l'investiture du sacre. Donc il y a bien un lien historique indépassable entre le catholicisme et l'histoire de France, mais c'est un lien entre le catholicisme et l'histoire, et pas entre le catholicisme et la conscience de chaque Français. Donc ce sont des gens qui sont très laïcs à leur manière aussi.
Je crois qu'il faut distinguer la vie morale, religieuse, personnelle de Jean de Morin, qui est une affaire personnelle, comme toutes les questions de foi, et qui a évalué jusque sur son lit de mort, d'ailleurs, on en reparlera peut-être, d'une part, d'autre part, sa conception, en général, intellectuelle, un peu en dehors de lui, si vous voulez, du rôle, comme vous le disiez fort justement, de l'Église catholique, comme, je ne dis pas du christianisme, mais de l'Église catholique, hein, comme socle de civilisation française. Pour lui, c'est comme ça qu'il voit les choses, sur le plan de son œuvre intellectuelle. Sur le plan personnel, son évolution est plus complexe, plus tragique. Et une fois de plus, il n'est pas le seul dans cette situation. Vous avez beaucoup d'auteurs avec moins de talent, ou d'hommes politiques, mais moins connus ou plus oubliés, qui tout au long du 19e siècle, par une forme de positivisme que l'on connaît bien maintenant, disent la forme extrême, c'est la religion, c'est bon pour le peuple. Enfin bon, ça le fait tenir tranquillement, ça c'est vraiment bon. Mais l'idée que la religion est l'une des bases de la société, et qu'il faut de la religion, comme disaient les bourgeois français au 19e, il faut de la religion, c'est ça que ça voulait dire, n'est-ce pas ? De façon beaucoup plus vulgaire, et moins réfléchie, c'est un peu la même thèse, finalement, donc il n'est pas totalement isolé. Est-ce que je voudrais revenir sur un point, le souverain pour De Gaulle et le souverain pour Maurras. Ce qui compte, finalement, plus que le souverain monarchique, c'est le mot même de souverain, qui renvoie à souveraineté. Pour De Gaulle, la base de la souveraineté, c'est l'indépendance nationale, parce que c'est seulement un pays souverain et indépendant qui peut justifier la forme démocratique et réciproquement. De Gaulle ne conçoit pas une démocratie, il est démocrate, ça c'est la grande différence avec Maurras, il est démocrate. Bon. De Gaulle ne conçoit pas une démocratie qui ne soit pas souveraine et indépendante, dans le sens de l'indépendance nationale. Parce que si jamais elle dépend de l'extérieur d'une façon ou d'une autre, eh bien le peuple n'est plus le maître de ses affaires, le peuple avec un grand P, évidemment, le peuple n'est plus le maître de ses affaires, on n'est donc plus en démocratie. Alors on a la même importance évidemment de la notion d'indépendance nationale pour Maurras, puisqu'au fond, qui est Tanger, c'est comment sauver l'indépendance de la France dans cette nouvelle situation mondiale. Mais là, la causalité, la chaîne est probablement différente, peut-être inversée. La condition de l'indépendance pour Maurras, c'est d'avoir un souverain, dans le sens d'un roi. Alors que pour De Gaulle, je dirais peut-être que la condition pour avoir la démocratie, donc le peuple souverain, vous voyez tous les termes, c'est justement d'être indépendant. Mais il y a une inversion probablement des facteurs, et dans la réflexion de De Gaulle, elle est très certainement très 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 profondément marquée par l'expérience de 1940 et les années qui ont précédé, bien entendu.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, nous recevons Georges Henri Soutou et Martin Motte pour leur livre « Entre la vieille Europe et la seule France », Charles Maurras, la politique extérieure et la défense nationale aux éditions Economica. J'aimerais dans cette deuxième partie dire sur un chapitre qui nous tient à cœur nous à la vieille Europe et qui fait débat aussi. C'est ce chapitre qui est passionnant, qui est le fameux triangle Paris-Berlin-Saint-Pétersbourg. Il a une vision bien précise de ces trois capitales. Il s'aperçoit, et c'est là où je dirais que, comme Charles Maurras n'est pas un géopoliticien, vu qu'il n'y a pas de géopolitique française à l'époque, mais il s'aperçoit que ce sont les trois grands pays, Et il est hors de question pour lui qu'il y ait une alliance. Comment vous pouvez nous expliquer aux auditeurs sa vision entre ces deux pays ? Parce qu'au départ, il est très critique sur l'alliance entre Paris et Saint-Pétersbourg.
Là, il est très critique parce qu'il pense que c'est justement la question que le chapitre de Stéphanie Burgot dans cet ouvrage que vous avez mentionné étudie de plus près. Charles Maurras est persuadé, comme beaucoup d'historiens par la suite jusqu'à maintenant, que dans cette alliance franco-russe, la Russie allait en fait surtout vouloir utiliser cette alliance pour se faire bien voir de Berlin. C'est le jeu classique. Au cours d'une soirée, un jeune homme s'intéresse à une jeune femme pour attirer l'attention de l'autre, n'est-ce pas ? C'est comme ça, c'est une stratégie classique. Et en même temps, pour calmer les Français, parce que une alliance, surtout dans le contexte du Conseil européen, c'est pas une garantie tout risque pour faire n'importe quoi. C'est une série d'engagements qui amènent à se consulter en permanence et donc à modérer sa politique. Constamment, Saint-Pétersbourg donne à Paris des conseils de modération, tout en disant à Berlin, n'exagérez pas. C'est un jeu assez subtil de la part de Saint-Pétersbourg. Et évidemment, Maurras voit très bien que ça risque de conduire à une sorte d'auto-émasculation, si j'ose dire, de la politique extérieure française, l'amenant à renoncer à l'idée de revanche. Parce que les Russes ne veulent pas risquer d'entrer en guerre à cause d'une volonté française de revanche. Ça, c'est très clair. Et ça reste exact. Je crois que les historiens n'en mettent pas ça en cause. Et c'est à partir de là qu'ils critiquent l'affaire. Alors, les choses, évidemment, évolueront par la suite. Il y a un texte qui n'a pas eu une portée historique à très long terme à cause de la situation de la Russie, plus tard la Russie soviétique, c'est la lettre de Maurras aux républicains de Russie en 1917. Pendant cette courte période entre février et octobre, novembre 17, où la Russie est dirigée par des patriotes libéraux qui veulent essayer de poursuivre l'alliance avec les Occidentaux, bon, et qui vont être d'ailleurs battus sur le plan militaire par l'Allemagne et sur le plan politique par Lénine. Bon, il y a une phase intermédiaire de quelques mois. Et dans cette lettre aux républicains de Russie, rédigée par Maurras en 1917, vous avez toute une thématique qui est assez différente de la thématique de Kiel et Tanger, parce que les circonstances sont différentes. On a maintenant la possibilité, si les Russes veulent bien continuer le combat, d'arriver à battre l'Allemagne et donc à la transformer dans le sens que l'on connaît, c'est-à-dire d'un retour à une Allemagne style Allemagne de Westphalie, divisée en principautés, etc. Pas détruite, bon, ça n'intéresse pas Maurras, bien sûr, ni même des annexions, ça ne les intéresse pas, Maurras ou Bainville, mais qui reviennent à une forme de très lâche confédération. Et là, ce n'est plus un triangle Paris-Pétrograd maintenant, Berlin, c'est un axe Paris-Pétrograd pour maintenir l'Allemagne en bas. Et au fond, ce qu'espérait Del Cassé avant la guerre de 14, n'est-ce pas ? Mais maintenant, c'est possible parce qu'on a une Russie qui n'est plus la Russie impériale avec des Romanov qui étaient tellement liés à l'Allemagne qu'ils ne pouvaient pas s'en dépêtrer, ce qui n'est pas absolument faux d'ailleurs. On a une Russie dont on peut espérer qu'elle va mener, par rapport à Berlin, une politique vraiment indépendante.
Il parle d'une diplomatie qui est sous influence prussienne, sous l'époque du tsar.
Tout à fait, oui, mais c'est pas absolument... Bon, c'est excessif, parce que les Russes étaient quand même plus indépendants que ça. Mais c'est pas totalement faux non plus. Bon, Madame Burgot a montré que c'était une vision excessive, largement le résultat de la propagande de Bismarck en faveur de sa propre politique extérieure. Bismarck était très fort, après coup, pour dire « c'est moi qui ai tout fait, ça s'est passé exactement comme je le voulais », etc. Évidemment, ce n'était pas totalement exact. Néanmoins, les moyens de pression du Reich bismarckien, puis wilhelmien sur la Russie sont considérables. Il y a un moyen qu'il ne faut pas oublier sur les alliances dynastiques, ça, elles sont nombreuses, pas seulement au niveau empereur tsar, mais au niveau des différentes principautés allemandes. D'autre part, c'est un moyen économique, parce que l'essentiel du commerce extérieur de la Russie se fait avec l'Allemagne, en particulier pour les problèmes les plus de l'économie moderne, les machines, etc. D'autre part, vous avez en Russie, toute une population de langue allemande dans les pays baltes qui joue un rôle essentiel à la cour, dans l'administration et dans l'armée. Vous prenez les noms des généraux, des grands hauts fonctionnaires ou ministres du tsar, beaucoup sont baltes d'origine, donc allemands, leur langue c'est l'allemand, etc. Et puis vous avez également une influence un peu plus subtile, c'est l'influence culturelle. Bon, les relations culturelles franco-russes sont quelque chose que l'on salue bien bas régulièrement, entendu, Victor Hugo, Tolstoï, c'est parfait, mais non, le fond de l'affaire, les étudiants russes, parce qu'il y a des universités russes, ils apprennent la philosophie allemande, la médecine, les sciences dures, comme on dit maintenant, sont orientées vers les universités allemandes, et ainsi de suite. Donc l'image n'est quand même pas totalement fausse.
Mais tout ce que vous décrivez n'empêchera pas, tout ceci ne résistera pas aux influences panslaves qui feront que la Russie causera la guerre de 14 en attaquant les marches de l'Empire austro-hongrois, enfin, pour faire simple.
Oui,
donc c'est-à-dire que comme souvent chez Maurras, l'analyse est brillante. Alors on a vu mais le principe de réalité fait que.
Non, mais est-ce que je peux quand même, sans, je veux pas passer
allez-y,
pour un défenseur allez-y, de Maurras, parce
c'est
que
tout. Son procès. Mais ce n'est pas déshonorant.
Non mais attendez non mais mon rôle n'est pas celui d'un avocat, c'est cette bon, je me permets quand même de rappeler que en 1914, certes la Russie a pris de très lourdes responsabilités. Ouais, quand même. Et ce n'est pas elle qui a déclenché le conflit, n'est-ce pas, malgré tout. Bon, donc, c'est l'Autriche-Hongrie, c'est l'Autriche-Hongrie, malgré tout. Bon.
Ça serait une longue discussion. Mais oui. Justement, enfin, sur ce rapport entre Paris et Saint-Pétersbourg, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est en train de fêter cette année, l'année franco-russe, et on fait, nous, le constat que cette alliance est souvent culturelle, comme elle était à l'époque, et qu'économiquement, l'alliance entre Berlin et Moscou est beaucoup plus proche. On est exactement dans le même cas de figure.
Oui, mais je voudrais insister, pardonnez-moi, mais je suis allé faire une conférence et un séminaire à Moscou au mois d'octobre dernier, dans le cadre de l'Institut historique allemand de Moscou. Alors, ils ont un staff qui est important, ils ont une masse de professeurs qui viennent faire des séminaires, des recherches, des conférences ponctuelles ou qui passent un an ou deux, bon, qui se chiffrent entre 100 et 200, quand même très important. Et j'étais très frappé par le fait que tous ces Allemands savaient le russe. Vous avez 2 millions d'Allemands qui ont été rapatriés de l'ex-Union soviétique au cours des années 80 et 90 et qui sont bilingues. Vous avez d'autre part toute une population ex-est-allemande qui apprenait le russe première langue dans leurs écoles, dans leurs lycées. Vous avez donc un potentiel de connaissance du russe en Allemagne aujourd'hui qui est infiniment plus important que celui qui existe en France. J'étais extrêmement frappé. Alors, ça leur permettait du coup de se promener dans les provinces, d'avoir des contacts mais extrêmement approfondis dans les structures même de la société russe. Et j'ai eu par ces collègues-là et pas par d'autres, hein, j'ai eu une vision de la Russie d'aujourd'hui beaucoup plus précise que ce que vous pouvez lire ailleurs. Voilà, ça c'était juste pour montrer.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui plaide totalement, nous semble-t-il, sur un axe Paris-Berlin-Moscou, mais pour l'exacte raison que nous avons besoin de notre partenaire allemand pour construire et souder des liens économiques d'abord et politiques demain, dans des modalités à définir, sur l'ensemble du plateau européen.
La coopération dans ce domaine entre Paris et Berlin est essentielle, ne serait-ce que pour éviter la course à Moscou, chacun séparément.
Oh, je crois qu'il n'y a pas. Je suis pas certain qu'il y ait de risque. Malheureusement, je crois qu'une course séparée des Français et des Allemands à Moscou, ce serait le lièvre et la tortue sans l'issue heureuse de la fable. C'est-à-dire que je crains que il faudrait que les Allemands s'assoupissent largement pour que nous puissions les dépasser. D'autant que il suffit d'observer ce qui se passe actuellement dans ce qu'on appelle l'Euroland. Pardonnez-moi cet anglicisme, mais les Allemands vont commencer, les Allemands ont deux difficultés. Premièrement, c'est que ils vont commencer à en avoir sacrément assez de faire des sacrifices budgétaires alors qu'ils sont les seuls à les faire et que tous les autres pays d'Europe, à commencer par la France, continuent à vivre au-dessus de leurs moyens. Et du coup, ils ont développé, pour faire face à leurs propres difficultés économiques des années 2000-2010, un modèle qui débouche sur l'exportation. On voit bien que des pays comme la Grèce, qui ont vécu au-dessus de leurs moyens en achetant à crédit des marchandises allemandes et en falsifiant leurs comptes, ne pourront plus continuer longtemps à ce jeu-là. Et donc le débouché naturel de cette économie d'exportation, c'est la Russie, ce qui illustre à loisir ce que nous avons rapidement et souvent exposé, le projet Gazprom avec le chancelier Genscher, Schröder, etc., etc. Et donc, je pense que non seulement il y a effectivement il y a un tropisme qui n'a pas changé et que la chute du mur de Berlin a développé. Je pense qu'il y a des raisons objectives, et puis il y a également le fait que les amis et ou partenaires de l'Allemagne lui laissent peu le choix pour survivre que d'aller chercher ce type d'alliance.
Sans compter qu'on est quand même sur des choses qui sont alors là très anciennes, puisqu'en définitive, si on prend la coopération russo-prussienne au XVIIIe siècle, les proximités qu'il y a pu avoir à certains moments, même s'il y a eu la guerre avec Frédéric II, quand on voit ce que dit Haushofer de la complémentarité entre l'industrie et la haute technologie d'Allemagne et les matières premières russes, tout ça ne fait que réactiver des logiques qui sont quand même anciennes.
Hein. Et c'est pour ça que le décrochage, me semble-t-il, mais comme d'habitude, ça fait probablement partie de nos travers à nous Français, c'est que j'espère que nous aurons à cœur de combler le décrochage que nous avons vis-à-vis de la Russie, ou même vis-à-vis de la Russie en termes d'exportation et de capacité de structure de l'économie pour bénéficier de ce type de marché, vis-à-vis de l'Allemagne pour faire enfin des efforts chez nous. J'espère que nous aurons à cœur de limiter notre décrochage plutôt que d'essayer d'aller installer la bisbille ou la nuisance dans d'autres partenariats. Parce que c'est quand même ce fait-là que nous sommes coutumiers.
Lucien Valdès.
Et est-ce que, pour rebondir, il n'y a pas une responsabilité presque philosophique de la pensée de Charles Maurras, qui refuse la politique des grands ensembles et qui reste fermé sur... On lui a assez reproché sur la France seule, sur cette chimère de la France... héros des petites nations.
Ça c'est très net. La pensée de Charles Maurras en matière européenne est aux antipodes de celle de Carl Schmitt, qui est très intéressante. La seule chose, c'est que les textes de Carl Schmitt, qui était à la fois le juriste du Troisième Reich, et en même temps le politologue qui a écrit tas de choses. D'ailleurs, encore aujourd'hui, cette littérature de l'époque, ce choix d'actualité, en tout cas, c'est intéressant à lire. Je me permets d'attirer cependant au passage votre attention sur le fait que les textes qui en sont édités maintenant, qui ont été édités après 1945, sont soigneusement expurgés par rapport aux textes édités dans les années 30 en Allemagne. Et si on fait une comparaison comme je l'ai faite, terme à terme, on découvre qu'ont été soigneusement excisés des paragraphes entiers, des pages entières d'un antisémitisme qui n'était pas, pas de commande, hein, parce qu'il n'était pas forcé de le mettre dans ses bouquins, et qui, d'autre part, n'a rien à voir avec ce qu'on appelait l'antisémitisme d'État de Maurras. Ça va beaucoup plus loin. Bon, je referme la parenthèse.
Pardonnez-moi, professeur, mais ça n'a rien à voir.
Ça a à voir, parce que la vision d'un grand ensemble européen par Carl Schmitt, c'est un grand ensemble qui serait dirigé de Berlin, qui serait coupé du monde anglo-saxon, ce qui n'est pas quand même la pensée de Maurras du tout, et encore moins peut-être celle de Bainville, mais même pas non plus celle de Maurras, et ce serait une Europe continentale, considérant la Russie comme un terrain d'expansion, n'est-ce pas, de façon plus ou moins polie ou brutale. Alors, cette théorie des grands ensembles, elle est évidemment très intéressante, mais elle réduit la France à peu de choses, d'une part, et d'autre part, elle ouvre la voie à toute une série de dérives philosophiques, idéologiques, politiques, que Maurras a passé sa vie à condamner, à combattre. Donc, la France seule ou la France à la tête des petites nations, ce n'est pas la totalité de la pensée de Maurras en relations internationales. Elle est quand même plus complexe. Disons qu'après 1940, sur le plan intérieur, c'est la seule façon d'échapper au choix qu'il devrait faire sans ça, hein, entre Vichy et De Gaulle, parce qu'il comprend très bien. Bon, alors, il sentir la seule France, ça que ça veut dire, ni les uns ni les autres. Bon, position bon, intellectuellement, on peut tout dire sur le papier, mais politiquement intenable à l'époque, c'est vrai. Bon. Mais d'autre part, sur le plan, alors non pas de la politique intérieure maintenant, mais de la politique extérieure, c'est la seule façon de maintenir ce qui est pour lui l'instrument essentiel, c'est-à-dire l'indépendance nationale, n'est-ce pas ? Comment faire autrement ? Bon, logiquement, du moins, logiquement. Et il faudra attendre, alors là on le trouve dans son dernier livre, « Votre belle aujourd'hui » de 1952, il faut attendre la bombe atomique, et qui est la divine surprise, et là c'est trégoulien, qui permet à un pays moyen...
Les gens du mal à, enfin, à y penser, mais Maurras a été pour une force de frappe.
Mais il a écrit une morceau blanc, coûte que coûte, il faut le faire coûte que coûte, ça n'a pas d'importance. Il dit même, et on pourra toujours faire sauter là, ou essayer l'engin, en Afrique ou en Océanie. Alors, quand on pense à la suite, c'est assez drôle, il écrit 152.
Du Sahara, oui.
Oui, oui, non, mais c'est bon. Alors, donc il, voilà, alors cette doctrine de l'indépendance nationale, dans un monde qui redevient celui du dernier chapitre de qui l'étanger, un monde dur, d'affrontements impitoyables, etc. La seule France, qui est une position idéologique, plutôt morale, finalement, une position morale, pour éviter d'entrer dans toutes ces horreurs, que ce soit la démocratie libérale, que ce soit le communisme, que ce soit le national-socialisme, la seule France, c'est sa civilisation, mais comme ce n'est pas viable, il faut la bombe atomique. Et alors là, c'est repris par toute la Ve République.
Je voudrais, à ce sujet, insister sur le fait que la bombe atomique, bon, évidemment, c'est une technique qui apparaît en 45, mais lorsque, dans le dernier chapitre de Qui l'étanger, Maurras décrit le face-à-face des grandes puissances et l'espèce d'effet de dissuasion pré-nucléaire qui existe avant 14, il parle d'une société d'épouvantement mutuel. Donc, il a déjà les moyens de penser, dès 1910, conceptuellement, ce qui va devenir ensuite la dissuasion nucléaire. Et à propos de la dissuasion nucléaire, il écrit, dans les jours qui suivent Hiroshima, il est donc en prison à ce moment-là, il écrit qu'il faut la bombe atomique pour la France, et il écrit « Le moindre mal de la bombe atomique, je cite, hein, doit consister en ce qu'elle reste la propriété d'une nation, car les nations sont d'immenses amitiés humaines, des familles de familles. En tant que telle la plus cruelle des nations, la plus mal gouvernée, subit encore malgré tout un reliquat de règles et d'ordre humain. » Et donc là, il veut dire que les nations n'étant pas totalement folles, elles n'utiliseront pas la bombe atomique à tort et à travers. Et il ajoute que si au contraire la bombe atomique tombait aux mains d'une secte de fanatiques et de désespérés, l'humanité serait menacée d'un retour au néant, car les idéologies, vues de l'esprit totalement désincarné, tendent par là même au nihilisme. Alors ça, si on n'est pas dans notre actualité la plus brûlante...
Dans votre émission du mois prochain, éventuellement.
Oui, effectivement.
Mais non, c'est pour ça que, vous voyez, on est toujours pris, pour répondre un peu aux questions que vous venez de poser, on est toujours pris quand on lit Maurras entre l'irritation de l'analyste universitaire qui dit ça quand même, c'est fascinant à lire, mais ça ne tient pas debout. Et d'autre part, à un autre niveau, malgré tout, l'admiration devant un effort de réflexion, de conceptualisation, est quand même impressionnant, une fois de plus, qu'on soit d'accord ou pas, n'est-ce pas ? Parce qu'on trouve, à côté des sottises, ou du moins des choses qui ont été immédiatement trouvées, on trouve toute une série de remarques de ce genre.
Dans ses lectures, est-ce qu'il a eu accès au premier texte sur la géopolitique allemande ou anglaise ? Est-ce qu'il a eu des influences sur intellectuelles ? Ou alors c'est vraiment franco-français, sa formation et ses lectures ?
Moi, j'ai pas le sentiment, j'ai jamais vu sous sa plume, pas seulement dans les grands livres, mais même dans les articles, de référence à Haushofer, à Ratzel, etc. Alors, ceci dit, je crois que là encore, c'est Amoretti qui fait le lien. Parce qu'en fait, la méthode de réflexion d'Amoretti, encore une fois, c'est un homme qui est mort jeune, donc on sait pas ce qu'il aurait donné s'il avait vécu 20 ans de plus, mais il y a vraiment dans ses articles des choses qui rappellent Ratzel de manière absolument frappante. C'est vraiment quelqu'un qui corrèle les cartes, les relations internationales, la démographie, l'économie, les flux, tout ce qui est aussi flux immatériel, hein, les influences, les réseaux d'influence, la religion, etc.
Les transports.
Voilà, les transports. Là, il y a une réflexion...
C'est incroyable, ce passage-là.
Oui, il y a une réflexion que Maurras tient d'Amoretti sur la manière dont les moyens de transport, en fait, conditionnent le comportement des régions périphériques par rapport à leur métropole, en fait. Et donc... il explique que le chemin de fer en fait produit un effet centripète, un effet de centralisation, parce que ce sont des structures fixes géographiquement qui convergent vers une capitale, etc. Et il dit oui, mais bientôt il y aura l'automobile et l'avion. Il écrit ça en 1898, donc l'aviation est encore à venir. Hein. Et, dit-il, à ce moment-là, ça introduira de la souplesse dans les transports et ça pourra rendre aux régions périphériques une vie propre, indépendante de la capitale, enfin, ou en tout cas moins indépendante. Or ça, vous avez toute une école aujourd'hui autour de Spolaoré et Alesina aux États-Unis qui réfléchit là-dessus. Je pense au livre The Size of Nations. Bon, donc là vraiment, il y a des aperçus géopolitiques véritablement. Alors ce qui l'empêche de devenir un vrai géopoliticien, c'est encore une fois ce primat peut-être qu'il accorde aux institutions et parfois qui lui masque des phénomènes. Je pense à la démographie. En fait, il voit pas que, ou il ne veut pas voir que le déclin de la puissance française depuis la fin du XVIIIe et peut-être même dès le milieu, dès Louis XV, c'est progressivement la baisse démographique. Et il l'attribue à l'effet des institutions républicaines. Alors, ça a pu jouer avec l'individualisme, etc. Mais évidemment, on ne peut pas en faire une cause unique.
Oui, c'est le code civil, c'est le code civil de Napoléon, le partage égal, qui a conduit la paysannerie française à limiter le nombre de naissances, ce qui, théorique, qui n'est pas le seul à avoir développé. Alors, en ce qui concerne la géopolitique, sa vision sur laquelle le basculement de la Terre vers la périphérie va être possible avec les nouvelles techniques, et qui n'est pas du tout idiote d'ailleurs, parce que c'est toute l'ère anglo-américaine qui s'annonce, eh bien c'est très exactement exprimé, évidemment de façon plus directement géopolitique, la thèse de Mackinder, qui est moins connue en France que les Allemands, n'est-ce pas, mais qui est à mon avis plus pertinente pour la suite, dans son article pionnier, comme on dit aujourd'hui, mais vraiment pionnier, paru vers 1910, si je me souviens
1904,
voilà, bon, dont le titre m'échappe à la seconde, mais c'est un article de 20 pages, il n'est pas très long, mais c'est le Heartland et le Rimland. C'est pas le Rimland peut, après avoir pendant des siècles été soumis au Heartland, qui peut communiquer plus facilement, il va gagner grâce à la machine à vapeur, et puis les télégraphes, les communications, etc. Et là, alors là, bon, il faut bien voir que dans ces questions d'influence intellectuelle, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas mesurer. Parce que à l'époque, les gens, au sens d'experts, d'hommes politiques, journalistes, penseurs, ce que vous voudrez, conversent entre eux beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, malgré le mail, etc. Parce que vous avez une société parisienne où les gens se retrouvent régulièrement, y compris dans les cafés, dans les salons mondains, etc. Et vous ne pouvez pas savoir, on ne peut pas reconstituer les informations qui passent dans ce milieu par une espèce de, ce que je l'appellerais le téléphone arabe intellectuel, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et ça, on ne peut pas le reconstituer. Et je vous assure que ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a encore existé. L'extrême fin, pour moi, c'était le début des années 70. Après ça, c'est fini.
Alors, malgré la communication moderne, la société de transparence et il y a un déclin
à mon avis, bon, il est évident qu'on ne parle pas du même nombre de personnes. Les moyens actuels permettent à des millions de Français, s'ils le souhaitent, de se connecter sur Internet. Là, je vous parle de quelques
centaines de personnes. Oui, de débats intellectuels, mais il y a un...
On est bien d'accord, mais c'est évident qu'on a changé d'air, il n'est pas question de revenir à ça, mais ce que je veux dire, c'est que pour les hommes dont nous parlons, Bainville, qui était très mondain, Maurras, qui était aussi à sa manière, bien, et tous les autres de la même époque, tant que l'on ne peut pas reconstituer les conversations qu'ils avaient dans leur dîner, leur soirée, etc., on manque d'une partie importante de moyen d'apprécier leur information au jour le jour et leur réflexion. Ça, c'est très difficile à reconstituer, sauf si on a des mémorialistes extrêmement soigneux qui notent cela. En Angleterre, pour l'entre-deux-guerres, on l'a, parce qu'il y a d'autres mémorialistes qui étaient suffisamment cultivés pour noter dans les conversations des hommes politiques, des intellectuels, des thèmes intellectuels, et pas seulement mondains. En France, c'est moins net.
Je voudrais terminer sur un pays qui est peu cité par Maurras, c'est l'Amérique. On a l'impression qu'il est passé à côté. Pour lui, l'Amérique, c'est la doctrine Monroe, donc il n'y a pas de danger. Il y a.
Je trouve un tout petit peu sévère. Bon, d'abord, il faut savoir il n'y a eu à Washington jusqu'en 1905 ou 8 même, sauf erreur de ma part, qu'une légation. Ce n'est devenu une ambassade que juste avant la Première Guerre mondiale. Et que d'autre part, un des livres les plus étonnants qui a été écrit, les plus justes, qui a été écrit dès 1918, ou plutôt des articles, comme toujours chez Maurras, réunis, publiés dès 1918 ou 19, c'est un charmant petit ouvrage, Les trois aspects du président Wilson. n'est-ce pas, la neutralité, l'entrée en guerre et l'armistice, et qui est un démontage du wilsonisme et de ses racines finalement philosophiques kantiennes et religieuses protestantes, qui encore aujourd'hui peut être expliqué à des étudiants. Bon, on est allé au-delà, bien entendu. C'est pas mal du tout. Bon, ceci dit, le côté puissance américaine, le côté changement complet d'échelle économique, etc., ça, ça n'entre pas dans les perspectives de Maurras, à mon avis.
Il y a peut-être, là, si on fait une suite, on a le projet de faire une suite, à réexaminer cette question pour la période de la Seconde Guerre mondiale. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, Maurras regarde beaucoup vers les États-Unis, parce qu'évidemment, pendant une période, Vichy a de bonnes relations avec le gouvernement américain. Après, il y a Giraud. On se demande si un temps, les Américains vont pas plutôt soutenir Giraud, etc. Et donc, tout le monde des Maurrassiens s'intéresse aux États-Unis. Et il y a une sympathie même dans Votre Belle aujourd'hui. Puis c'est le moment aussi où commence la guerre froide après. Et donc, il y a la conscience d'une solidarité atlantique chez Maurras, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a aussi les soliloques du prisonnier qui viennent d'être réédités par Lerne et où il développe sa vision d'une l'évolution, une sorte de confédération latine, atlantique, etc. Mais, alors, cette confédération est d'abord latine, mais on sent qu'elle désire d'y inclure le monde anglo-saxon, qu'elle a l'idée d'une communauté de civilisation face au péril russe, enfin soviétique.
Mais écoutez, merci à vous, Georges-Henri Soutou et Martin Mott, de votre présence. Je rappelle votre livre sous votre direction, « Entre la vieille Europe et la seule France, Charles Maurras, la politique extérieure et la défense nationale ». C'est aux éditions Economica. Nous allons faire une petite pause et bien sûr retrouver l'actualité européenne avec Philippe Christel, toujours sur Radio Courtoisie. On se retrouve pour cette dernière partie des chroniques de la vieille Europe. L'actualité européenne avec vous, Philippe Christel. Je sais, vous êtes en train de. On va vous laisser quelques secondes, Philippe Christel.
Je suis prêt.
Vous allez commencer cette actualité. Et on commence par quoi ?
Ce ne sera pas rendre hommage à Maurras, mais je vais parler des élections. Donc, je vais parler des élections. Mais je vais me faire pardonner puisque je vais parler des élections dans une de nos grandes sœurs latines, chères au grand Charles, le Maurras, pas l'autre. Donc pour parler bien évidemment de ces dernières élections régionales en Italie, et j'ai envie de dire Italie 1, France 0, puisque en Italie, contrairement en France, la droite, et pas n'importe quelle droite, a réussi un très beau résultat, puisque sur 11 des 13 régions qui étaient en jeu et qui appartenaient à la gauche, eh bien, la droite de Silvio Berlusconi, qu'on nous dépeignait comme agonisant, en a récupéré 4. Et bien évidemment, la droite a gardé ces deux régions. Et ce grand succès revient principalement à la Ligue du Nord d'Umberto Bossi, qui a triomphé à ces élections régionales, triomphé sur un programme ouvertement populiste, anti-immigré, et sur les promesses de la mise en place immédiate d'un fédéralisme fiscal. Pour la Ligue du Nord, c'est la présidence de la Vénétie. Pour la première fois, la Ligue du Nord emporte cette Vénétie, qui est au cœur de son projet politique. C'est aussi la prise à la gauche de la région du Piémont. Et donc, c'est une victoire éclatante dans le Nord, industrieux. Umberto Bossi l'a rappelé, au Nord, la gauche a disparu. Ses dirigeants doivent se demander pourquoi les ouvriers ne votent plus à gauche. La Ligue du Nord, c'est maintenant 60 députés, 350 municipalités, 14 provinces, 4 ministères. Voilà une force qui est une force considérable. Elle fait 12,7% des suffrages au plan national, mais comme vous le savez, elle ne présente des candidats que dans la moitié nord de l'Italie, où elle fait entre 13% dans l'Émilie-Romagne, qui est le fief historique de la gauche, et 31% en Vénétie. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que cette droite de la Ligue du Nord est une droite ultra, c'est une droite populiste, c'est une droite qui assume son discours et ses valeurs, et c'est une droite qui prend des territoires pour les gouverner. Et c'est évidemment ce modèle...
Et ça se passe plutôt bien.
Et c'est évidemment ce modèle-là qui nous intéresse. Si vous voulez, on est en train de regarder en fait l'ensemble des droites européennes, pour reprendre un vocable que nous avons par le passé entendu avec émotion, et on se rend compte aujourd'hui que dans les droites nationalistes ou identitaires, en fait, il y a trois catégories. On va considérer qu'il y a effectivement ces droites ultra populistes, fiers de l'être, qui l'assument et qui veulent gouverner et qui gouvernent. Ces droites-là aujourd'hui sont en succès. Je pense à la Lega Nord, je pense au FPE autrichien de Heinz Christian Strache, et je pense au Parti du Peuple Danemark, du peuple danois, et je pense également au PVV de Geert Wilders aux Pays-Bas. Cette droite-là, elle est ultra populiste, elle assume, elle gouverne et elle réussit. Il y a ici ou là quelques anciennes extrêmes droites ralliées au système et qui sont condamnées à l'impuissance. C'est le cas de la démarche Fini en Italie et ça a été le cas de la démarche de Feu Heider en Autriche. Et puis, il y a encore une droite nationale qui est caricaturale, qui est repoussoire, qui ne se structure pas pour gagner et qui, même soumise au feu médiatique, a tendance à s'en sortir en mollissant sur ses valeurs. Je dois malheureusement classer dans cette rubrique le Front National français, le NPD pour sa partie caricaturale en Allemagne, le FN belge, mais qui est quasiment inexistant. Alors, on peut se poser des questions sur quelques partis qui sont naissants. Je pense notamment au British National Party en Angleterre, où il est encore un peu tôt. C'est la mutation enclenchée par Nick Griffin est intéressante, mais il est un peu tôt pour voir ce que ça donne, d'autant que le mode de scrutin anglais empêche de toute façon le BNP de tout succès autre que locaux. Je suis réservé sur ce que fait le Vlaams Belang. Aujourd'hui, le Vlaams Belang n'a pas réussi à sortir du cordon sanitaire et ne sera pas un parti de gouvernement puisque le cordon sanitaire l'empêche à chaque fois. Et aujourd'hui, il est en décrue, mais il a une victoire politique au sens où il a maintenant totalement inspiré et décomplexé les partis traditionnels, je pense à la NVA ou à l'Élise de Decker, qui aujourd'hui assume un irrédentisme flamand de manière totale, et c'est une victoire du Vlaams Belang. Après, il faudra suivre bien évidemment les partis nationaux identitaires scandinaves. Il faudra également suivre nos amis grecs qui ont un terreau inquiétant, mais un terreau pour se faire entendre.
Et donc voilà, pour moi, l'UDC, vous le mettez dans quelle catégorie, l'UDC suisse? C'est vrai qu'elle est...
Pour moi, l'UDC suisse, c'est la catégorie de ceux qui gouvernent et ceux qui réussissent.
D'accord. Non, c'est simplement une simple question.
Mais vous avez raison. J'étais centré sur les pays sur les mouvements de l'Union européenne. Alors, autre pays qui, pour l'instant, n'a pas de droite nationale forte et structurée, c'est l'Espagne. Et il se pourrait bien que cela change parce que, de plus en plus, l'Espagne, frappée de plein fouet par la crise économique, se retourne contre ses immigrés avec notamment un sondage tout à fait fascinant qui serait totalement impossible en France et qui vient d'être... publié par trois universités espagnoles. Et alors, notamment le centre de recherche sociologique. Et alors, la question numéro un, c'est: y a-t-il un groupe d'immigrés qui vous est spécialement sympathique? Première réponse, aucun, avec 25%. Alors
ça,
que
ça,
question,
c'est pas possible,
y a-t-il un groupe d'immigrés qui vous est spécialement antipathique? Alors, les Marocains et Nord-Africains sont en tête avec 17,8, suivis par les Roumains avec 16,7. Mais plus intéressant, ce qui est pertinent à constater, c'est que les Espagnols n'en peuvent plus de leur immigration. Il faut rappeler qu'il y a aujourd'hui, on estime en décembre 2009, selon Eurostat, le statisticien européen, qu'il y avait un peu plus de 5 millions d'immigrés en Espagne, c'est-à-dire en gros 2 millions de moins qu'en Allemagne, pardon, et 2 millions de plus qu'en France, parce que effectivement, selon Eurostat, il y a 3 millions d'immigrés en France, puisqu'évidemment, on ne compte pas les nationaux.
Et ce qui est intéressant, c'est que, vous le savez, l'immigration est en Espagne un phénomène très récent et son rythme a été frénétique, notamment sous le gouvernement les gouvernements du conservateur Aznar et du socialiste Zapatero depuis 2004, qui ont entériné une explosion démographique par des régularisations massives. Résultat des courses, l'Espagne est le pays qui a le plus reçu d'immigrés en proportion de sa population sur un temps très court. Et donc aujourd'hui, les personnes interrogées jugent à 77% que le nombre d'immigrés en Espagne est excessif ou élevé, alors qu'en 1996, en pleine croissance économique, cette proportion n'était que de 28%. De la même manière, 74% des Espagnols décrivent les politiques migratoires comme trop tolérantes ou plutôt tolérantes. Il n'était que 56% en 2004. Sur l'idée de préférence espagnole à l'embauche, 60% d'entre eux la trouvent tout à fait acceptable ou plutôt acceptable. Et enfin, 68% sont d'avis d'expulser des immigrés en situation régulière lorsqu'ils commettent un délit, et 39% s'ils sont au chômage pendant une longue période. Donc voilà, en tout cas, dans la société espagnole qui vient de récupérer un trop-plein d'immigration, voilà en tout cas un certain nombre de réactions qui pourraient présager un certain nombre de résultats électoraux intéressants.
En sachant quand même que l'Espagne, pendant des années, a fait sa croissance sur le bâtiment et qu'effectivement, c'est un domaine où la main-d'œuvre étrangère vient en masse...
Oui Patrick, mais la structure de la population active espagnole a fait que très longtemps la bonne partie, au moins la première moitié de cette croissance économique, cette explosion du BTP, s'est fait avec de la main d'œuvre espagnole qui était aujourd'hui sous-employée et sous-qualifiée. Aujourd'hui, donc l'arrivée des immigrés en Espagne est vraiment quelque chose qui est, on l'a vu avec les problématiques de navires qui s'échouent, etc. On est vraiment dans une explosion et dans un développement très fort ces dernières années.
Plus une immigration aussi qui vient d'Amérique du Sud, qui est la particularité de l'Espagne.
Absolument. Et puis, ma foi, ils sont quelques-uns à provoquer les Espagnols, puisque vous avez dû voir cet incident à l'intérieur de la mosquée cathédrale de Cordoue, puisque des touristes musulmans venant d'Autriche, alors probablement expulsés par le FPE de Heinz Christian Strache, ont mis en scène une opération prosternation à l'intérieur de la mosquée cathédrale de Cordoue. Je rappelle, mais nos auditeurs cultivés le sachent, que cet édifice qui, de par son architecture et sa décoration, pourrait inspirer davantage l'image de Mahomet que celle de la résurrection. Enfin, il n'empêche que depuis la Reconquista, et ça fait quand même un certain temps, nous sommes là en terre chrétienne, et que l'évêque local a bien rappelé le caractère exclusivement catholique de cette mosquée-cathédrale. Un usage partagé n'est pas possible, a rappelé Mgr Fernandez dans son homélie dominicale. Et il y a donc eu, effectivement, une opération commando d'un groupe de 118 musulmans avec talkie-walkie, avec un guide organisé pour se prosterner pendant les fêtes pascales, je rappelle, dans cette mosquée. Je rappelle que toute terre ayant été occupée par des musulmans devenant terre d'islam, pour un certain nombre de prédicateurs musulmans, la mosquée cathédrale de Cordoue, comme une bonne partie de l'Espagne, font partie des terres d'islam, et donc les autorités islamiques locales, c'est-à-dire celles qui sont accepté par le pouvoir espagnol, revendique le droit de pouvoir partager l'édifice avec les chrétiens. On sait ce qu'en a pensé Mgr Fernandez. Il n'en reste pas moins que voilà des types de provocations qui pourraient largement développer le sentiment identitaire que je décrivais tout à l'heure.
Il serait intéressant de voir si en Turquie certains chrétiens décidaient de reprendre les églises ou les cathédrales sur le sol turc.
Écoutez, Patrick, je pense que ça va arriver, puisque vous avez vu que pas plus tard qu'hier, le premier ministre turc Tayyip Erdogan, qui était invité à l'université de Bosnie à Sarajevo, a déclaré que il était patient et que tôt ou tard nous adhérerons à l'Union européenne. Il a donc réitéré sa conviction. Si l'Union refuse notre intégration, c'est elle qui sera perdante, car elle se déclarera alors comme un club chrétien. Et on voit bien dans le vocabulaire qu'il est donc perdant de se déclarer comme un club chrétien. Nous voulons considérer l'UE comme l'Union européenne, comme un centre d'alliance des civilisations, blablabla, blablabla. Bla, bla. Cette visite fait quand même suite à une série de complications pour le chancelier, le premier ministre turc. Vous avez vu qu'à la fin du mois de mars, c'est-à-dire il y a 10 jours, Angela Merkel est venue en Turquie pour défendre de nouveau l'idée d'un partenariat privilégié avec l'Europe, et non
elle a l'idée courageusement.
Absolument, elle a réaffirmé courageusement, et d'autant, et j'y reviendrai, que ce n'est pas ce qu'avait dit son ministre des Affaires étrangères début janvier, mais j'y reviendrai dans un instant. Donc Angela Merkel a été très claire sur le sujet. Vous avez vu la polémique sur l'ouverture demandée par Monsieur Erdogan de lycées turcs en Allemagne. Le Premier ministre turc ayant demandé à la chancelière allemande, en Turquie nous avons des lycées allemands, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir de lycées turcs en Allemagne ? Voilà, toujours, c'est la même stratégie que celle de la mosquée cathédrale de Cordoue, c'est occuper le terrain. La CDU a vertement répondu en disant que des écoles particulières pour les migrants ne feraient que paralyser l'intégration, d'autant plus que, outre-Rhin, toutes les études soulignent le taux d'échec scolaire élevé des migrants turcs que les représentants de la communauté turque en Allemagne reconnaissent eux-mêmes. Donc aujourd'hui, Angela Merkel a tenu la position. Elle a rappelé dans la conférence de presse à M. Erdogan que, avant tout assouplissement de quoi que ce soit, il fallait simplement que la Turquie tienne ses engagements et ouvre enfin ses ports turcs à Chypre. Je rappelle que la Turquie refuse de normaliser ses relations diplomatiques et commerciales avec Chypre, membre de l'Union européenne, sous prétexte, bien évidemment, que la République turque de Chypre du Nord reste politiquement isolée. Et donc la Turquie ne refuse de reconnaître la République de Chypre, qui est pourtant membre de l'Union européenne. Et donc c'était intéressant de voir ce...
Enfin, on va pas s'en plaindre, hein, ça permet simplement de dire aux Turcs qu'ils ne pourront pas rentrer en Europe déjà.
Non, non, absolument, on va pas s'en plaindre, mais on se satisfera de cette position,
Lucien Valdès. C'est une occupation militaire, hein, on peut s'en plaindre.
De
la Turquie, sur un pays européen.
Oui, oui, certes, voilà. Bien sûr.
Oui, oui, non, non, non.
Mais c'est sûr. Pas ce que voulait dire
c'est,
Patrick.
C'est cher
non,
payé, c'est... Voilà.
Oui, oui. En tout cas, cette mise au point d'Angela Merkel nous rassure, puisque effectivement, le flamboyant Guido Westerwelle, le patron du FDP, les libéraux, qui est aujourd'hui au titre de la coalition ministre des Affaires étrangères, avait soutenu une option inverse en déclarant lors de sa visite fin janvier en Turquie que l'Allemagne n'empêcherait pas l'adhésion de la Turquie, mais qu'elle se battrait pour le respect des critères de Copenhague, vous savez, les droits de l'homme, etc., etc. Donc ceci vient clore une séquence pas très agréable pour la Turquie, d'autant plus que, vous l'avez vu, le Parlement suédois a enfin voté la reconnaissance du génocide arménien, ce qui a eu pour conséquence le rappel de l'ambassadeur turc à Stockholm, rappel donc dans la mère patrie, rappel le 17 mars, la Turquie ayant été furieuse de cette reconnaissance. Je rappelle quand même que le génocide arménien a été reconnu par de nombreux pays, l'Uruguay, la Russie, la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, la Lituanie, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, la Grèce, Chypre, le Liban, le Canada, le Venezuela, l'Argentine et 42 États des États-Unis, plus le Vatican. Vous vous rendez compte, il y a plus de gens qui ont reconnu le génocide arménien que de pays qui ont reconnu l'indépendance du Kosovo. C'est vous dire si la cause n'est pas populaire. Et puis même un dernier sondage qui vient d'être publié par l'Union européenne font état du fait que 47% des sondés refusent de voir la Turquie entrer dans l'Union européenne. C'est un sondage qui a été réalisé en Allemagne, Espagne, France, Pologne et Grande-Bretagne. 52% des Européens voteraient contre. Toujours les questions fascinantes des sondages, c'est êtes-vous pour non, contre 47%, mais s'il fallait voter non, ah bah contre 52%. Donc c'est une ode probablement au vote, puisque c'est quand on vote qu'on a plus d'opinion que quand on ne vote pas. Il faudra immédiatement transférer ça aux électeurs français. La plupart des noms ont été enregistrés en France, 64%, en Allemagne, 62%, les oui l'ont emporté principalement en Pologne, 54%. Et c'est un sondage qui a été coordonné par l'Université autonome de Madrid, qui décidément est très portée sur les sondages en ce moment, l'Université de Grenade et la Boğaziçi University. Ça, c'est à Istanbul. À Istanbul, je suis pas certain qu'on prononce ça comme ça, mais les Turcs me pardonneront.
Oui, et puis vous n'avez pas fait de Turc.
J'ai pas fait de Turc, non. Ils pourront se rattraper, les Turcs, parce que je rassure tout le monde quand même, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Miliband, s'est déclaré favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc là encore, voilà une jolie occupation pour le futur haut représentant de la politique étrangère de l'Union européenne, la très séduisante Catherine Ashton, qui devra donc, là encore, aider l'Europe à parler d'une seule voix sur ce sujet. Je lui souhaite bien du courage.
Autre chose.
Oui, une brève toute simple, mais qui est symbolique. Eh bien, samedi dernier, qu'a fait le président Viktor Yanukovych? Je rappelle que le président Viktor Yanukovych est le nouveau président de l'Ukraine, après avoir débarrassé l'Ukraine de la clique de la révolution orange, comme on parlait au bon vieux temps de la révolution culturelle, la clique du président Yushchenko. Eh bien, le président Yanukovych, certainement pour des raisons d'économie budgétaire, j'imagine, enfin, il a dissous le Centre national d'intégration euro-atlantique de l'Ukraine. Voilà. Donc, Kiev n'intégrera pas l'Alliance Atlantique. Il n'y a donc plus de nécessité de construire, financer et occuper ce Centre national d'intégration. Voilà une parenthèse qui se termine. L'idée, c'est bien évidemment de travailler en bonne intelligence avec l'OTAN, bien évidemment, mais de ne pas y rentrer.
Bon, c'est bien, comme ça on n'aura plus besoin de poser la question aux membres de l'OTAN.
Alors, je voudrais vous parler un petit peu de la Russie, pour dire deux choses. Premièrement, je voulais rappeler, même si tout le monde le sait, enfin que une quarantaine de Russes ont été tués ou très gravement mutilés dans deux attentats suicides dans le métro de Moscou, et que ceux qui poussent des cris d'orfraie devant les carnages du terrorisme en Irak et en Afghanistan doivent aussi se rendre compte que visiblement il y a d'autres frontières sur lesquelles les Européens se battent et que la frontière passe par le métro de Moscou. Et que donc le combat contre le terrorisme, le combat contre l'islamisme, comme il est parfois dépeint par d'aucuns, passe aussi par la Russie. Et donc la Russie est en première ligne, il ne faut pas l'oublier. Et c'est une raison de plus de considérer que ce pays fait bien partie de notre famille par le sang versé dans ce type de combat, premièrement. Deuxièmement, ce qui est intéressant, et ça n'aura pas échappé aux observateurs, c'est que, contrairement aux attentats précédents où, c'était la grande spécialité du journal Le Monde, les messages de condoléances affluaient en même temps que les articles pour reprocher telle répression ou telle absence de répression ou telle corruption, le pire, l'ignoble ayant été atteint au moment de la tuerie de Beslan où les écoliers russes ont été massacrés par des barbares sans pitié, eh bien pour une fois, les messages de condoléances et de soutien ont été unanimes, rapides, et je dois dire que la France s'est particulièrement distinguée positivement par la voix du président Sarkozy, puisqu'il était présent dans son voyage à New York et Washington. Et c'est lors de son discours devant les étudiants de l'université de Columbia qu'il a expliqué que c'était les mêmes barbares qui mettaient des bombes dans le métro de Moscou et qui projetaient des avions sur les tours jumelles. Je ne sais pas ce qu'en auront retenu les étudiants américains, mais je trouve que c'était pertinent de le rappeler, même si il faut qu'il assure le service après-vente des navires Mistral, mais au moins le grand jeu diplomatique de cette semaine,
puisque gâchez tout parfois.
Grand jeu diplomatique de cette semaine, puisque on pourrait faire une émission entière sur le sujet, mais vous avez vu que Obama et Medvedev vont probablement signer jeudi à Prague une nouvelle version du traité START 3, avec tout le sujet sur le déploiement ou pas du dispositif antimissile. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a la conférence sur le désarmement projeté par Barack Obama les 12 et 13 avril, auquel Medvedev va se rendre. Donc il y a visiblement une détente qui s'organise entre la Russie et les États-Unis, détente dont l'Iran pourrait être amené à faire les frais, puisque la Russie a rallié un certain nombre de positions des Américains sur le sujet. Heureusement, pas les positions françaises qui sont les plus extrémistes sur le sujet. Mais la signature de ce traité START semble apporter Une satisfaction de façade, un joli coup diplomatique joué par Obama et Medvedev qui en ont bien besoin, surtout Obama après cette grande difficulté sur le front intérieur. Je pense que ça ne traitera pas l'ensemble des difficultés qui restent pendantes entre les deux pays. On oublie que dans que la Russie, contrairement aux États-Unis, reste quand même un pays qui est sur la défensive, alors que les États-Unis sont sur l'offensive. La Russie, contrairement aux États-Unis, qui sont le seul pays nucléarisé de l'ensemble des deux continents américains, la Russie doit faire face sur son flanc sud à la poudrière du Caucase et dans son Grand Orient à la pression chinoise, et que donc les moyens en défense, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle, ne sont pas les mêmes. Enfin, fermons la parenthèse, il faudrait avoir l'occasion d'y revenir, mais ça me paraît, je voulais insister sur le fait que cette tension semblait décroître, même si on n'est pas à l'abri de nos surprises et que tout n'est pas signé. Dernier sujet sur la Russie, je voulais me faire l'écho auprès de vous de toujours un lien avec l'affaire des Mistral, de ce fameux oligarque Pougatchev dont Paris fait des gorges chaudes, puisque vous savez que, alors qui est Pougatchev? Sergueï Pougatchev est un des oligarques proches du pouvoir russe. Il a notamment été mandataire financier de la campagne présidentielle de Dmitri Medvedev. C'est lui qui est appelé le banquier de l'Église orthodoxe, c'est d'ailleurs le cas. Il est issu d'une famille très pieuse. Il s'est fixé pour mission de promouvoir les valeurs nationalistes et religieuses de la Sainte Russie. C'est d'ailleurs lui qui est un des principaux mécènes de l'exposition au musée du Louvre que Dmitri Medvedev et Nicolas Sarkozy ont inauguré ensemble le 2 mars. Et accessoirement, il dirige un certain nombre d'entreprises en Russie, dont d'ailleurs des chantiers navals, lesquels chantiers navals pourraient récupérer 2 à 3 des Mistral que la France vendront à la Russie. Ce qui est intéressant, c'est que Pougatchev n'intervient pas directement en France. En revanche, il y a délégué son fils Alexandre, il a 25 ans, et qui pilote ses activités depuis les bureaux de sa holding Sablon International, qui est installée sur les Champs-Élysées, et qui aujourd'hui a décidé d'investir au moins 10 millions d'euros pour relancer le quotidien François. Et effectivement, tout le monde se demande dans quelle mesure François ne pourrait pas, à 2 ans de la prochaine présidentielle, devenir un relais de l'Élysée. Nous parlions tout à l'heure avec nos invités de l'Alliance franco-russe, et nous savons maintenant que combien la presse revancharde française, républicaine et franc-maçonne de l'époque a été subventionnée par les capitaux de l'ambassade de Russie, l'ambassade tsariste. Aujourd'hui, semble-t-il, Pougatchev, fils, investit dans un quotidien français. On dit même que celui qui pilote l'opération pour l'Elysée n'est autre que Patrick Buisson qui était le stratège de la campagne de 2007, celui qui a construit le discours de Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale
et l'homme des sondages,
d'y faire converger les électeurs déçus, il y avait de quoi, du Front National. Et donc on regardera effectivement si quelles sont la nature des relations que Patrick Buisson, Nicolas Sarkozy entretiennent avec les cercles traditionnalistes et nationalistes russes représentés par monsieur Pougatchev.
Vous allez peut-être vous abonner à François, Philippe.
Je sais pas.
Alors, je crois que vous avez quelques livres.
Voilà. En revanche, trois lectures pour rester dans le droit fil du sujet. Nous avons régulièrement abordé dans cette émission la collection qui s'appelle la collection Artege. A-R-T-E-G-E. Ce sont les éditions, Artege, et qui publient. Dans la collection Initiation à la géopolitique, collection dirigée par Olivier Zajec, dont nous avions
déjà parlé
à l'occasion de la sortie du bouquin Les secrets de la géopolitique, était une introduction tout à fait passionnante à la collection qui suit. Et là, effectivement, la collection tient ses promesses, puisque nous avions eu l'occasion d'ailleurs de là aussi faire une courte recension de l'Égypte au cœur du monde arabe, l'ouvrage qui avait été écrit par Pascal Ménadier et qui est sorti en mai 2009.
Et qui avait été invité, je crois, dans le Libre Journal
de Philippe Conrad. Et là, ce sont deux opus qui viennent de sortir. Le premier qui est « Russie, les chemins de la puissance » par Isabelle Facon. qui est très intéressant. Bon, je suis un peu réservé, mais parce que bon, vous connaissez mon enthousiasme.
Philippe, c'est l'initiation à la géopolitique. Donc vous êtes un grand connaisseur de la Russie. C'est pas forcément.
Je suis réservé sur le ton. Le bouquin. Sur le ton du livre. Le bouquin est très bien. Il est pédagogique, didactique. Il y a de superbes cartes. Et c'est toujours un plaisir dans ce type de livre, puisque l'ouvrage fait 16 €. Donc. 16 €, c'est cher quand même, mais c'est pas très cher quand même. Il y a plus cher,
vu le prix des livres.
C'est pas mal. Et donc, il y a de superbes cartes en couleur qui, quand même, aident bien à la compréhension. Non, je suis un petit peu réservé au sens où je ne trouve pas une grande subtilité dans la conclusion qui est, voilà, cette image internationale de la Russie, elle ne cesse de se détériorer parce que Moscou revendique avec d'autant plus d'agressivité son statut, d'autant plus d'agressivité qu'elle le sait fragile. Donc le côté, les Russes demandent la puissance et donc ils sont maladroits et donc ils sont méchants. Voilà, je trouve un petit peu simpliste le ton, mais l'ouvrage est une très... une excellente introduction à la géopolitique russe, avec notamment ce regard sur cette Russie qui est la troisième Rome et qui est le plus grand pays du monde. Ça impose quelques obligations, mais ça génère chez ses habitants quand même une conscience de soi qui ne peut être similaire à celle d'autres pays plus petits ou moins vastes. Donc voilà, ça c'était pour. Et alors, je ne sais pas si c'est un effet de coïncidence, mais après la Russie, nous avons la Pologne, géopolitique du phénix de l'Europe. Donc après la Russie, la Pologne, comme ça on reste entre voisins. Le livre est écrit par Sophie Kassar, qui est un professeur qui enseigne en Bretagne et qui, là aussi, alors il a fallu être courageux et agile pour écrire ce livre, parce que toujours avec d'excellentes cartes. Parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses dans les dernières années, dans ces derniers mois, avec l'ensemble des relations que la Pologne a avec l'Europe et ses voisins. Le livre est passionnant parce que, d'abord, il est très bien écrit. Deuxièmement, les derniers soubresauts, notamment l'affaire du bouclier antimissile, sont dans le livre. Et donc, ce livre est très récent. Et il traite, bien évidemment, de cette Pologne, ce grand pays peu épargné par les conflits tragiques du XXe siècle et qui s'interroge sur jusqu'où il peut aller à l'Est, jusqu'où il peut aller à l'Ouest et jusqu'où il peut aller en essayant de vouloir vivre sans exaspérer ses voisins, comme il le fait régulièrement à chaque siècle.
Il nous reste une petite minute.
Pour vous parler, je quitte la géopolitique pour vous parler de la Fondation Polemia. Et en fait, je ne la quitte pas tant que ça, puisque la Fondation Polemia, www.polemia.com, a édité un dictionnaire de la réinformation qui coûte 10 €, qui est également disponible en format PDF sur le site pour ceux qui ne veulent pas envoyer un chèque de 10 €. Ce dictionnaire, c'est 500 mots pour la dissidence. C'est une logique de se réinformer en se réappropriant un certain nombre de mots. Et il y a beaucoup de mots qui sont là aussi centrés sur la géopolitique, l'américanisation, la civilisation européenne, le complexe de Marco Polo, etc. Merci. Dictionnaire de la réinformation.
Merci Philippe Christel. Fin de ces chroniques sur Radio Courtoisie. Nous nous retrouverons dans 4 semaines. D'ici là, vous pourrez retrouver notre émission sur le site vieilleurope.fr ou la réécouter jeudi soir. Bonne soirée à tous sur Radio Courtoisie. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Ici Radio.